20h, le journal du classique, avec Laure Maison sur Radio Classique.
Bonsoir à tous, c'est l'une des plus grandes figures du piano anglais, un musicien qui ne cesse de nous captiver par la poésie de son jeu, son sens des couleurs, son raffinement, mais aussi sa virtuosité. Benjamin Grosvenor sera à notre micro ce soir, alors qu'il s'apprête à retrouver le public parisien. Ce sera, notez-le bien, le 17 mars au Théâtre des Champs-Élysées. Et puis, comme tous les mardis, Thierry Ilerito du Figaro nous rejoindra pour nous dresser cette semaine le portrait de la flûtiste Mathilde Calderini. Avant cela, quelques autres nouvelles du monde musical. Lang Lang devient ambassadeur mondial de la Maison Dior. Cette nomination marque une nouvelle étape de l'étroite collaboration qu'entretient le pianiste chinois avec le groupe LVMH. Philippe Gau vous en dit plus dans son article publié sur le site de Radio Classique. L'Opéra de Limoges vient d'accéder au statut de théâtre lyrique d'intérêt national, un conventionnement accordé par le ministère de la Culture pour la mise en œuvre d'un projet artistique et culturel d'une grande qualité, nous dit-on, et notamment pour son travail auprès des populations à travers notamment les projets Opéra Kids et Coopératives Citoyennes. C'est l'un des événements de la saison lyrique parisienne, la création française de l'opéra The Exterminating Angel de Thomas Hades, dans une mise en scène signée Calixto Biaito, une œuvre inspirée de l'univers étrange et subversif de Louise Buñuel, une partition fascinante et particulièrement exigeante pour ses interprètes, dont la direction musicale sera assurée par Thomas Hades lui-même, puis par Robert Houssard, avec dans la distribution Jacqueline Stucker, Gloria Tronel, Hilary Summers ou encore Claudia Boyle. C'est à découvrir dès jeudi et jusqu'au 23 mars à l'Opéra Bastille.
Laure Maison sur Radio Classique.
5 mois après son précédent récital associant 2 monuments du répertoire romantique, la sonate en si mineur de Liszt et la 3e de Chopin, récital qui a transporté tous ceux qui ont eu la chance d'y assister, Benjamin Grosvenor revient au Théâtre des Champs-Élysées avec un autre programme, encore autour de Chopin et de Liszt. Ce sera le 17 mars, un dimanche matin, et il est avec nous ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Le Théâtre des Champs-Élysées, c'est une scène particulièrement inspirante, où vous vous sentez bien?
Bien sûr, j'ai eu la chance de jouer plusieurs fois dans la série de Jeanine Rose, le dimanche matin. Et c'est un peu comme ma maison maintenant. Je me suis habitué à ce format, et c'est toujours un vrai plaisir de revenir. Je crois que c'est un endroit merveilleux pour un récital de piano en particulier.
Alors vous associerez donc de nouveau Chopin et Liszt, deux compositeurs qui semble occuper une place importante dans votre vie de musicien. Est-ce que vous avez des relations très différentes avec l'un et avec l'autre, puisqu'ils ont des langages finalement assez différents?
Liszt et Chopin sont à la fois similaires et différents. Ils partagent un même lien avec le piano en particulier, ce même genre d'esprit romantique dans leurs œuvres. Mais c'était deux personnes différentes. Liszt était extraverti et aimait les gens, jouait en public. Et Chopin, lui, était plutôt renfermé. Il a donné peu de concerts dans sa vie. Ils avaient des esprits différents, mais il y a quand même beaucoup de choses qui les relient dans la musique. Par exemple, dans ce récital, je vais jouer la berceuse de Liszt, qui est très inspirée de Chopin, selon moi. Elle est dans la même tonalité, avec la même délicatesse. Mais c'est en même temps très différent, bien plus troublé. Donc oui, ces deux compositeurs sont liés, malgré leur personnalité très différente.
Et au niveau du toucher pianistique, Chopin, qui avait un jeu beaucoup plus introverti que Liszt, c'est un toucher, j'imagine, très différent.
Liszt est peut-être plus brillant. Certes, certaines musiques de Chopin peuvent être brillantes aussi. Et toutes les musiques de Liszt ne sont pas lyriques. Donc, il y a des similitudes entre les deux artistes. Mais généralement, Liszt est peut-être plus brillant et Chopin a toujours cette chaleur dans sa musique.
Un nocturne de Frédéric Chopin sous les doigts de Benjamin Grosvenor, qui est notre invité ce soir sur Radio Classique. Benjamin Grosvenor qui jouera à Chopin le 17 mars au Théâtre des Champs-Élysées. La première ballade et la deuxième sonate. Chopin est-il très différent selon vous lorsqu'il écrit des petites pièces, ou en tout cas des pièces isolées et assez libres, ou lorsqu'il compose une grande sonate, une œuvre structurée comme la sonate?
Il a toujours été difficile pour des compositeurs d'écrire des sonates après Beethoven. Ils étaient un peu intimidés, je pense. C'est très intéressant parce que Liszt a complètement réinventé la forme. Pour Chopin, la sonate a commencé avec la marche funèbre. Il a d'abord écrit la marche funèbre, et ensuite sa première sonate a été en quelque sorte publiée sans sa permission. Je crois qu'il a ressenti beaucoup de pression, parce qu'il était particulièrement satisfait de ce qu'il avait fait avec cette œuvre, et il avait la pression de composer d'autres sonates après. Donc, il a pris la marche funèbre et il en a fait le centre de son œuvre. Puis, il a composé sa deuxième autour d'elle. Il était critiqué à l'époque par Schumann, notamment. Les gens pensaient qu'il n'avait pas forcément réussi à trouver la cohérence dans une forme plus large. Ils y voyaient quatre chefs-d'œuvre. Quatre pièces assemblées ensemble. C'est comme ça que c'était vu à l'époque. Mais c'est devenu une œuvre que nous adorons. Et le dernier mouvement est vraiment extraordinaire, parce que ça ne ressemble en rien à ce que Chopin écrivait, ni à ce que faisaient les autres à ce moment-là d'ailleurs. Il sonne moderne, complètement nouveau et exaltant. Il a été décrit comme le vent sur les pierres tombales, après la marche funèbre. Donc c'est une pièce remplie d'innovation et d'émotion.
Et c'est une œuvre aussi très contrastée qui montre différents visages de Chopin.
La sonate montre plusieurs facettes de Chopin. C'est un peu un travail tragique, dans le sens où le premier mouvement est vraiment dramatique. Et si vous prenez la marche funèbre, la section lente, la marche, est évidemment très sombre et mélancolique. Et la section du milieu est très intime et douloureuse. Je veux dire douloureuse, mais belle. C'est un beau voyage, comme se doit de l'être une bonne sonate.
Alors vous mentionniez tout à l'heure, Benjamin Grosvenor, cette berceuse de Franz Liszt, que vous jouerez également le 17 mars au Théâtre des Champs-Élysées, une œuvre qui doit beaucoup à Chopin. C'est une œuvre tardive du dernier Liszt, une œuvre étrange, fantomatique, une œuvre qui donne presque l'impression d'être immatérielle.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une pièce étroitement liée à la berceuse de Chopin. La berceuse de Chopin est très statique, c'est très beau. Chez Liszt, les passages font un peu penser à Chopin. Mais il y a des passages qui sont plus troublés. C'est presque extatique à la fin, avec l'explosion dans le climax. C'est une berceuse. Mais il y a quelque chose d'un sommeil troublé. Ce n'est pas juste une berceuse. Il y a quelque chose de plus complexe qui se passe.
La berceuse de Liszt que vous avez enregistrée, Benjamin Grosvenor, qui figurera au programme de votre récital parisien du 17 mars. Alors il y aura Liszt, il y aura Chopin, et puis il y aura un autre compositeur, un compositeur russe, Prokofiev. Quelle est sa place, Prokofiev, dans ce programme de musique romantique? Prokofiev, dont vous jouerez la 7e sonate, qui est l'une des sonates de guerre.
Elle se connecte avec le reste du programme et permet une sorte de contraste. Chopin et Liszt sont très romantiques. Et là, on a une pièce un peu plus violente dans sa nature. Mais d'une certaine manière, on retrouve des émotions similaires à la marche funèbre de Chopin. Il y a une expression de chagrin dedans. Le dernier mouvement a ce rythme martelant qui ne cesse de s'amplifier et c'est une œuvre musicale tellement excitante qu'elle ressemble presque à du rock'n'roll. Le mouvement central est peut-être mon préféré. Il a quelque chose de profond et de touchant. Parce qu'il commence par une sorte de passage simple et tranquille. Qui est un peu plus ancré dans une écriture traditionnelle. Puis, dans le passage central, il peut devenir quelque chose de beaucoup plus violent et presque effrayant avant de revenir à son point de départ. C'est une transformation incroyable, car une fois que l'on a connu cette sorte de violence et que l'on entend à nouveau la simplicité du début, on passe à une attente émotionnelle complètement différente.
Donc des univers et des émotions très variées à l'occasion de ce récital du 17 mars qui nous permettra d'apprécier toute la palette de couleurs que vous arrivez à faire ressortir du clavier. C'est vrai que vous êtes un véritable maître de la couleur, Benjamin Grosvenor. Comment, lorsque vous êtes face à une partition, comment vous viennent ces sons, ces touchés du piano? Est-ce que tout est dit dans la partition ou est-ce qu'il faut en même temps réfléchir? Est-ce que c'est un instinctif?
Je pense que lorsque vous prenez une partition, vous avez une sorte de sentiment instinctif initial sur la façon dont vous voulez colorer et façonner les choses. Mais je sais qu'avec le temps, cela se développe. Donc pour chaque compositeur, il y a quelque chose de différent que vous trouvez. Vous construisez une sorte d'image interne du son que vous tirez du piano. Je veux dire que le son se forme dans votre tête et vous le tirez du piano comme vous voulez qu'il soit.
En tout cas, on se réjouit de vous entendre de nouveau à Paris. Quels seront ensuite vos grands rendez-vous à venir sur scène, sur d'autres scènes internationales?
Juste après mon concert à Paris, je vais jouer à Amiens et ensuite à Milan avec le même programme. Et ensuite, je vais jouer avec des orchestres. Je vais jouer le concerto numéro 2 de Liszt à Liège et la même pièce à Toulouse aussi. Donc, quelques dates en France arrivent.
Alors, un petit mot sur la vie musicale anglaise, puisque vous êtes donc anglais, Benjamin Grosvenor. On entend beaucoup parler des troubles qu'il y a en ce moment en Angleterre avec, par exemple, l'English National Opera qui a menacé récemment de faire grève. Est-ce que c'est une période compliquée pour la musique, pour la culture en ce moment en Angleterre?
Yes, it's a complicated time.
C'est une période compliquée. Et particulièrement avec le gouvernement que nous avons, je suppose. Mais aussi depuis la pandémie. La culture est quelque chose pour laquelle on doit toujours se battre. Puisque c'est inévitablement la première chose qui perd de l'argent dès qu'une crise survient. C'est très triste de voir ce qui arrive à l'English National Opera, dont le futur est incertain. Mais le Royaume-Uni reste un endroit merveilleux pour jouer de la musique. Et il y a tellement de musiciens merveilleux et d'organisations et tant de personnes tellement investies dans ce qu'elles font. On a juste à faire ce que l'on peut pour s'assurer que les institutions gouvernementales soutiennent toujours tout le monde.
Oui, puis il y a des troubles aussi dans la vie musicale française, hein, yeah. Malheureusement. Alors, votre récent album, et on va en écouter quelques notes, était consacré à Schumann et à Brahms autour de ce merveilleux cycle des Kreisleriana. Vous avez d'autres projets d'enregistrement, Benjamin Grosvenor?
Mon prochain enregistrement n'est pas complètement planifié pour le moment. J'espère faire quelque chose à la fin de cette année, mais c'est un peu flou. Ça pourrait être avec un orchestre ou alors un piano solo. Je ne sais pas encore ce que ce sera.
Mais on va se quitter donc avec quelques notes de Schumann. Merci infiniment d'avoir passé un moment avec nous. Le début des Kreisleriana de Schumann sous les doigts de Benjamin Grosvenor. Benjamin Grosvenor qui sera, je vous le rappelle, en récital le 17 mars au Théâtre des Champs-Élysées.
Nouvelle génération de Thierry Lhériteau avec le Figaro.
Bonsoir Thierry.
Bonsoir Laure.
Ce soir, une jeune flûtiste plus que jamais dans le vent.
En effet, Mathilde Calderini, à 34 ans seulement, la jeune femme fait partie des nommées aux prochaines victoires de la musique classique, dont la cérémonie se déroulera ce jeudi dans la catégorie artiste instrumental de l'année. Alors si elle décrochait le précieux César, eh bien elle succéderait ainsi à deux des plus grands noms de notre école française de flûte, Jean-Pierre Rampal, d'abord lauréat il y a 30 ans, et Emmanuel Pahut, qui avait lui décroché la victoire, c'était il y a 25 ans. Pas d'emballement. Toutefois, chère Laure, la musicienne doit faire face à deux concurrents redoutables. Le guitariste Thibaut Covin, qui rêve lui aussi d'apporter une nouvelle victoire à son instrument. Ce serait la deuxième, seulement pour la guitare après la révélation attribuée à Thibaut Garcia en 2019. Mais aussi, et surtout, le pianiste Alexandre Kantorov, qui, tout le monde en conviendra, n'est pas le moins sérieux des candidats à la consécration.
Quelle que soit l'issue de la soirée, Mathilde Calderini, elle ne devrait pas bouder son plaisir d'être présente à la cérémonie.
Et non, car celle qui interprétera au cours de la soirée un court extrait de l'andante pour flûte et orchestre de Mozart le sait, son instrument n'est pas de ceux qui sont les plus exposés médiatiquement d'ordinaire, comme sur les scènes de concert d'ailleurs. Et elle compte sur ce coup de projecteur bienvenu pour susciter de nouvelles vocations au sein de la jeune génération.
Alors il faut dire, Thierry, qu'elle-même ne vient pas particulièrement d'une famille de musiciens.
Eh bien non, elle a grandi à Thonon-les-Bains. C'est à l'âge de 5 ans qu'elle découvre la musique grâce à une représentation de l'opéra La Flûte Enchantée de Mozart qui aiguillonne sans doute sa passion future pour les sortilèges de l'instrument. 3 ans plus tard, toujours envoûtée, elle pousse les portes de l'école de musique de sa ville natale et après avoir un temps hésité entre la harpe et la flûte, commence l'apprentissage de cette dernière. Très vite, l'école de musique ne lui suffit plus. Ce sera le conservatoire à rayonnement régional de Chambéry où elle intègre la classe d'André Guérin qui forma également, figurez-vous, Salvatore Faulisi. Ce nom vous dit peut-être quelque chose. C'est le père du jeune violoniste Luca Faulisi et le patron d'une boutique de flûte traversière qui a aujourd'hui pignon sur rue dans la capitale. À 17 ans, Mathilde décide de se lancer et part pour Paris où elle intègre le CNSM. Elle y suivra notamment les enseignements de Claude Lefebvre, soliste de l'orchestre de l'Opéra de Paris, et de Sophie Cherrier, flûtiste à l'ensemble intercontemporain.
Et c'est aussi là qu'elle rencontre 4 de ses plus fidèles compagnons.
Eh bien oui, le clarinettiste Amaury Viduvier, le hautboïste Philibert Perrine, le bassoniste Raphaël Angster et enfin le corniste Nicolas Ramez. Vous l'aurez peut-être deviné, ensemble, nos 5 mousquetaires fondent l'ensemble Ouranos, quintette avant qui fêtera cette année ses 10 années d'existence déjà. Et depuis près d'une décennie, eh bien, fait souffler un véritable air de tempête de nouveautés dans le monde très particulier des ensembles avant, dont il n'a de cesse de démontrer la richesse insoupçonnée, tant en termes de sonorité que de répertoire. Les Ouranos viennent d'ailleurs de créer leur propre académie de quintette avant. C'est à la Fondation Saint-Gerre-Polignac où ils sont en résidence.
Ce qui n'empêche pas Mathilde Calderini de poursuivre sa carrière de soliste.
Non, tant s'en faut, depuis un peu plus de 3 saisons, la jeune femme, rappelons-le, est désormais première flûte solo de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, excusez du peu, et elle s'attache à démontrer la richesse insoupçonnée, voire négligée, du répertoire français, notamment pour son instrument. Elle le fera d'ailleurs sur son prochain album, à Paris, être dans quelques semaines chez Alpha et enregistré avec le pianiste Aurel Martin. Ensemble, ils revisiteront, outre la sonate de Francis Poulenc, tout un répertoire oublié à forte consonance féminine, de la sonate de Melbonis à la sonatine de Claude Arieux, en passant par un concertino de Cécile Chaminade. Occasion de rappeler que Mathilde Scalderini s'est aussi faite ces dernières années une ambassadrice importante de la redécouverte de nombreuses compositrices témoins. Tenez, sa participation au récent enregistrement de la boîte à pépites consacrée à une certaine Charlotte Sauri.
Thank you.
Carpe Note de la fille aux cheveux de lin de Claude Debussy par Mathilde Calderini et Aurèle Martin, un enregistrement qui sortira prochainement chez Alpha. Merci beaucoup Thierry pour ce portrait de Mathilde Calderini. À la semaine prochaine. Merci à Bertrand Dorigny pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous serons en compagnie de la soprano Sandrine Piau qui viendra nous présenter son magnifique album. Elle nous parlera de musique, elle nous parlera de lumière et d'éclairage également. Mais tout de suite, je vous invite à prolonger cette soirée sur Radio Classique avec Francis Drezel.